Bonsoir Sébastien Legénie.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, les épreuves de spécialité du bac reportées au mois de mai. Elles devaient avoir lieu en mars. Décision officielle aujourd'hui du ministère de l'Éducation après consultation des syndicats qui craignaient une désorganisation totale à cause du Covid. Calendrier précis, programme à réviser, les détails dans un instant. Ils se sont parlé mais difficile d'en tirer les conclusions. Échange téléphonique ce matin entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine sur la crise ukrainienne. Moscou qui se plaint que ses exigences n'aient pas été entendues. Nous serons à Moscou. À suivre aussi l'arrivée prochaine du vaccin Novavax aux Antilles, reçu avec méfiance par les non-vaccinés. S'agit-il d'une erreur ou d'une fuite organisée? Des visuels de campagne pour Emmanuel Macron ont fait une courte apparition aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et puis du théâtre pour terminer avec un texte de Bernard-Marie Coltès, monté par Stanislas Nordet.
France Inter. C'est un soulagement pour les syndicats enseignants. Les lycéens, eux, sont plus partagés.
Les lycéens qui vont avoir 2 mois de plus pour préparer leurs épreuves de spécialité, comptant pour le tiers de la note finale du baccalauréat. Ces épreuves devaient avoir lieu au mois de mars, 14, 15, 16 mars exactement, mais l'explosion des cas de Covid à l'école a changé la donne. Plus de 20 000 classes fermées, 570 000 contaminations chez les élèves, 35 000 chez les enseignants. Ces dernières semaines, les syndicats, certaines organisations lycéennes plaidaient pour un report des épreuves. Ils ont été reçus aujourd'hui rue de Grenelle par le ministre Jean-Michel Blanquer et c'est donc chose faite depuis aujourd'hui. Bonsoir Sonia Princey.
Bonsoir.
Les épreuves de spécialité auront donc lieu au mois de mai.
Les mercredis 11, jeudi 12 et vendredi 13 mai, c'est-à-dire la semaine de la reprise de la dernière zone après les vacances scolaires de printemps. Les épreuves porteront sur le programme tel qu'il était prévu pour le mois de mars. Pas de chapitre supplémentaire à apprendre et les élèves n'auront que des cours de spécialité 2 jours avant, les 9 et 10 mai, pour réviser avec leurs professeurs. Ils auront aussi plus de choix de sujets lors de l'examen. Le ministre Jean-Michel Blanquer explique avoir privilégié l'intérêt des lycéens.
La crise sanitaire a fait que la situation peut être différente d'un endroit à l'autre. Je pense par exemple à l'outre-mer, dans certaines académies de Martinique, de Guadeloupe par exemple, ou même de Guyane, mais aussi à certaines régions de métropole où on peut constater parfois des absences d'élèves, par exemple encore maintenant, liées aux variants Omicron. Et en tout cas, ce que nous souhaitons, c'est l'équité des candidats. Et le mois de mai nous est apparu comme étant la formule qui permettait de donner de la sérénité. Je crois que c'est le mot-clé si on veut avoir du sérieux dans la préparation de cet examen.
Alors en ce qui concerne Parcoursup, le calendrier reste le même, mais ce sont les notes de contrôle continu dans les 2 spécialités des candidats qui seront prises en compte. 2 autres informations importantes pour les candidats au bac pro. Les périodes de stage sont réduites de 2 semaines pour leur permettre de mieux préparer les épreuves de fin d'année qui ne changent pas. Et pour l'oral du bac de français, les élèves de première devront avoir étudié 16 textes au lieu de 20 pour la voie générale, 9 au lieu de 12 pour la voie technologique. Vous le voyez, pour la 2e année consécutive, le bac nouvelle formule est encore chamboulé.
Sonia Princey, spécialiste éducation à Inter. Ce soir, satisfaction quasi unanime des syndicats d'enseignants et de parents d'élèves. Du côté des lycéens, en revanche, on est plus divisé. Les déçus s'inquiètent de ce changement de calendrier qui empêcherait notamment les notes d'être prises en compte dans la plateforme Parcoursup.
C'est peut-être le début d'une désescalade dans le dossier ukrainien.
C'était en tout cas l'objectif recherché par l'Élysée. Emmanuel Macron s'est entretenu ce matin au téléphone avec le président russe Vladimir Poutine pour tenter d'apaiser la situation. Selon la présidence française, les deux hommes se sont entendus sur la nécessité d'une désescalade et de la poursuite du dialogue. Le président Poutine n'a exprimé aucune intention offensive, dit-on à l'Élysée. Il a très clairement dit qu'il ne recherchait pas la confrontation. Emmanuel Macron qui doit aussi s'entretenir ce soir avec le président ukrainien Zelensky. Voilà pour la lecture française de ce coup de téléphone plutôt positive. À Moscou, en revanche, Poutine affiche un optimisme beaucoup plus mesuré. Les réponses des Occidentaux à ses exigences ne lui conviennent pas. La correspondance de Sylvain Tronchet.
Nous n'avons pas été entendus, nos considérations en matière de sécurité ne sont pas prises en compte, je vais regarder tout cela et je déciderai de la suite des événements. Voilà en substance ce que Vladimir Poutine a expliqué à Emmanuel Macron d'après le compte-rendu que le Kremlin fait de la conversation des 2 chefs d'État. La Russie a obtenu ces derniers jours ce qu'elle cherchait, à savoir une fin de non-recevoir à ses exigences, le non-élargissement à l'est de l'OTAN, le retrait des armements stratégiques à ses frontières et le retour à la situation de 1997 en matière de déploiement des troupes américaines en Europe. Pour les Russes, c'est une question majeure de sécurité. C'est même une question de vie ou de mort. Ils estiment que l'OTAN les menace potentiellement. Vladimir Poutine l'a rappelé au président français. Il lui a expliqué qu'il souhaitait néanmoins toujours discuter, façon de dire que l'option militaire n'est pas encore sur la table. Mais jusqu'à quand ? La question reste ouverte ce soir, tant les positions semblent inconciliables. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
Et puis autre signe de cette crispation de Moscou, la Russie qui interdit d'entrer sur son territoire plusieurs responsables de l'Union européenne. En bref, encore à l'étranger, le Burkina Faso suspendu des instances de la CDAO, la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Pas d'autres sanctions en revanche à ce stade contre la junte militaire qui a pris le pouvoir en début de semaine à Ouagadougou. Ce devait être le sérum capable de convaincre les non-vaccinés. Le Novavax, conçu sans ARN messager, sera envoyé d'ici moins d'un mois en priorité aux Antilles, les territoires français les moins vaccinés, annoncé hier d'Emmanuel Macron, accueilli avec scepticisme et même une grande méfiance sur place. Bonsoir Marion Ferrer.
Bonsoir.
Ce nouveau vaccin a très peu de chances de vaincre les plus résistants.
Il n'y aura pas de ruée dans les centres de vaccination, préviennent les représentants locaux qui soulignent que des manifestations quotidiennes se déroulent toujours devant les hôpitaux. Actuellement, en Guadeloupe et Martinique, seuls 4 adultes sur 10 présentent un schéma vaccinal complet. Éric Bellemare est secrétaire général FO en Martinique. Il le reconnaît, ce vaccin est plus traditionnel, mais la colère sociale, elle, reste très forte.
Je ne pense pas que le 21 février, il y ait des files de plusieurs dizaines de mètres de personnes attendant la vaccination. Ce que nous constatons sur le terrain, c'est qu'il y a une telle crispation où chacun est campé sous ses positions, quoi. Donc, il faut quand même, si on veut vraiment, il faudra quand même passer par la case dialogue.
Tension également en Guadeloupe, au CHU de Pointe-à-Pitre. 220 soignants ont été suspendus faute de vaccination contre le Covid. ARN messager ou non, les mouvements contestataires dénoncent un coup de communication. Elie de Mota, leader du LKP.
Depuis le 23 septembre, les services de l'État ne nous adressent pas la parole. Sur la plateforme de revendication, les premiers points à examiner, c'est la réintégration de tous les personnels suspendus, de tous les libéraux dont on a fermé les cabinets. Pour nous, il n'y a là qu'une opération électoraliste.
Et du côté du CHU, on admet que peu de réfractaires se laisseront convaincre par le Novavax. Une poignée seulement accepteront, nous dit la direction, et au prix de très longues explications.
Marion Ferrer, rappelons que les 7 territoires d'outre-mer sont actuellement placés en urgence sanitaire. Orpea dans le viseur des inspecteurs. Inspection surprise depuis hier de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France dans l'une de ses plus luxueuses maisons de retraite, les Bords de Seine à Neuilly. Inspection inopinée, diligentée également par les autorités sanitaires en Belgique aujourd'hui. À Saclay, Total renonce à installer son nouveau pôle de recherche au sein de Polytechnique. Le groupe explique cette décision en raison d'un retard important dans la construction du bâtiment. Le projet était très contesté par une partie des élèves et des professeurs. On en vient maintenant à ces mystérieux tweets qui agitent depuis hier le landerneau politique. Plusieurs ministres ont publié sur leur compte aujourd'hui une photo d'Emmanuel Macron. Un visuel intitulé Macron 2022, très inspiré de la campagne de Mitterrand en 1988. Sauf que depuis, les tweets en question ont été supprimés. Bonsoir Noémie Lair.
Bonsoir.
Alors, s'agit-il d'une officialisation avant l'heure de la candidature du président ?
Ce soir, il reste juste un post Instagram sur le compte de Clément Beaune. Tout a été supprimé sur ceux des autres ministres, Franck Riester et Olivier Dussopt. Alors, était-ce une boulette ? Un post parti trop vite ? Une simple erreur de visuel, répond-on du côté de Franck Riester, une initiative d'un militant, et quand on a fait le tweet, on ne savait pas, explique son entourage. Dans la foulée, un nouveau tweet a d'ailleurs été partagé avec la bonne image sur laquelle on ne voit pas Emmanuel Macron. Mais l'erreur étonne, on se demande comment les ministres, tout comme le proche conseiller du président Thierry Solaire, ont pu se tromper de visuel. Pourrait-il plutôt s'agir d'une stratégie de communication pour souligner le naturel d'une candidature d'Emmanuel Macron et faire de l'officialisation prochaine un non-événement ? Toujours est-il semble-t-il qu'En Marche a mis un coup d'accélérateur dans cette campagne avec le lancement avant-hier d'un site internet Avec vous 2022, une mise en ligne accompagnée d'une opération d'affichage sauvage dans plusieurs villes de France. Une stratégie qui coche donc toutes les cases ou presque d'un début de campagne.
Noé Miller, en politique encore, c'est un coup dur pour la candidate Marine Le Pen. Violent, avoue-t-elle, sa nièce Marion Maréchal ne rejoindra pas sa campagne et s'apprête à rejoindre les rangs d'Éric Zemmour. Elle envisagerait une candidature aux élections législatives dans le Vaucluse ou dans le Morbihan. On y revient dans le journal de 19h.
C'est un accusé atypique qui a été entendu aujourd'hui au procès des attentats du 13 novembre.
La cour d'assises a interrogé aujourd'hui Mohamed Amri, l'un des Belges qui était venu chercher Salah Abdeslam à Paris dans la nuit, juste après les attentats, pour le ramener à Bruxelles. À la barre aussi, ses proches, son père et sa femme. Bonsoir Charlotte Piret.
Bonsoir.
Des témoins qui décrivent un homme au quotidien des plus banals.
Un quotidien qu'il partageait avec Tim, jeune Belge converti à l'islam avant leur rencontre. Non voilé, je l'ai un peu porté, mais je ne le mets plus, répond la puéricultrice en crèche dont la vie de couple et le quotidien sont fouillés jusque dans les moindres détails. Il y avait une marque de coups sur votre lit. Je ne me rappelle plus la raison, mais c'est un lit Ikea, hein, c'est pas très solide. Vous vous disputiez souvent, parfois pour une chaussette mal rangée. On n'avait jamais vécu ensemble avant notre mariage. Sa consommation de stupéfiants aussi, c'était une source de discorde. Et le 14 novembre, quand il revient d'avoir été chercher Salah Abdeslam, il mange des œufs, c'est ça? Vous vous installez en face de lui? Je rangeais ou je faisais du ménage, je ne sais plus, mais il était très fatigué et restait silencieux. Invité encore à s'expliquer sur les anachides, ses chants religieux choisis pour leur mariage, ses recherches internet sur le ramadan, la voiture Mercedes en panne dans le garage ou l'absence d'intérêt du couple pour l'actualité, y compris celle liée aux attentats. En ressort le sentiment d'une grande banalité, mais aussi un malaise, confie maître Olivia Ronen, avocate de Salah Abdeslam. Comment avoir envie de répondre dans un climat qui frôle parfois l'indignité face à certains qui s'improvisent experts conjugaux, j'ai une vraie inquiétude sur les témoins qui vont suivre. Ils sont un certain nombre déjà à avoir refusé de venir à l'audience.
Charlotte Piret en direct du Palais de Justice de Paris avec Frédéric Cayrou. Il était accusé de viol et d'agression sexuelle sur mineurs dans les années 80. Jean-Michel Bailey, patron de la Dépêche du Midi, voit l'enquête du parquet de Paris classée sans suite pour prescription. Un mot de sport avec l'affiche de la finale de l'Open d'Australie dimanche. L'Espagnol Rafael Nadal contre le Russe Daniil Medvedev. Et puis ce soir, gros match pour les handballeurs français qui seront opposés aux Suédois en demi-finale de l'Euro, coup d'envoi à 20h30.
On va parler théâtre aussi, pour finir avec une pièce de Bernard-Marie Coeltes.
Oui, Tabataba, pièce courte, écrite en 1986, dans une mise en scène de Stanislas Nordet, l'histoire d'un frère et d'une sœur livrés à eux-mêmes, confrontés à la réalité de la sortie de l'enfance. C'est le choix culture de Stéphane Capron.
Stanislas Nordet avait déjà mis en scène ce texte de Coeltes en 82. Il y revient 30 ans après avec deux jeunes comédiens issus de son programme Premier Acte destiné à promouvoir une plus grande diversité dans le recrutement des écoles d'art dramatique. Gisca Calvanda et Émile Samori Fofana interprètent cette sœur et ce frère solitaire, deux rôles troublants et mystérieux.
C'est une histoire pour moi très universelle, quoi. C'est une histoire pour moi d'amour entre une sœur et un frère.
Puis il y a la question sociale à travers ça, la question familiale, la question des valeurs qu'on transmet aux garçons, qu'on transmet aux jeunes hommes, aux jeunes femmes. Et comment ces deux personnages y trouvent des prétextes pour échapper au monde extérieur en se concentrant sur leur petit monde qu'ils se sont créés tous les deux. Pour Petit Abou, c'est la moto. Pour Maïmouna, c'est... comment t'appellerais ?
Cette femme d'intérieur, finalement. Ouais. Ils se contemplent, en fait, dans leur cours.
Au final, on se rend compte que c'est l'endroit où ils ont envie d'être.
On nomme pas les parents, ouais. On sait pas où sont les parents. Mmh. Comme si, pour Maïmouna, toute sa vie, c'était son frère et vice-versa, quoi. Et je trouve ça très beau, trop fort peut-être.
Gisca Calvanda et Émile Samori Fofana jouent cette pièce condensée à travers des petits villages en Drôme-Ardèche. Une sacrée performance formatrice pour deux acteurs déjà dotés d'une sacrée puissance de jeu.
Voilà, Tabataba de Bernard-Marie Coeltes, mise en scène de Stanislas Nordet ce soir à Livron sur Drôme et puis la semaine prochaine dans plusieurs villages de Drôme et d'Ardèche.
Et ben voilà, merci pour le programme. C'était le journal de Sébastien Legénie.